Les papiers de monnaie.
La lutte contre l'exclusion sociale.
Bonjour à tous, je suis Coralie et aujourd'hui j'aimerais faire un plaidoyer sur l'exclusion sociale. Nous savons tous que de nombreuses injustices sont faites auprès de plusieurs groupes sociaux. Certains sont jugés à avoir plus de droits que d'autres selon leur âge, leur couleur de peau, leur origine et encore bien plus d'acteurs. Mais aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur les personnes en situation de handicap. En effet, plusieurs personnes ont été victimes d'exclusion sociale causée par leur handicap. Tout d'abord, j'aimerais rappeler les dires du président de la République, Emmanuel Macron, au sujet des problèmes concernant les personnes à mobilité réduite, le 3 mai 2017. Dans un débat télévisé, juste avant le second tour de la présidentielle, je cite « Je veux pour toutes les personnes qui vivent en situation de handicap avoir des solutions pragmatiques », avait-il dit, affirmant que cela serait une priorité de son quinquennat. Ces mots ont créé de l'espoir et de grandes attentes chez les personnes handicapées et leurs familles. Cependant, vous en doutez bien, pas grand-chose a changé et beaucoup de choses restent à changer. J'aimerais tout d'abord vous informer à l'aide de pourcentages et de recherches scientifiques des différences qu'il y a entre les personnes sans problème de mobilité et les personnes avec un handicap. Il faut savoir que d'après une étude de la DRIS, que 19% des citoyens en situation de handicap sont en situation de pauvreté avec un revenu moyen par an et par ménage de 21 900 euros, contre 13% pour les citoyens en situation de pauvreté sans problème de mobilité avec un revenu moyen de 25 800 euros. Pas étonnant puisque d'après la DRIS, les personnes en situation de handicap sont surreprésentées parmi les chômeurs, soit 15% contre 8% pour le reste de la population. De plus, les travailleurs handicapés occupent davantage de postes d'employés ou d'ouvriers et sont plus fréquemment employés à temps partiel. Mais encore une fois, tout cela n'est pas sans raison puisque près d'un tiers n'a aucun diplôme contre 13% pour le reste de la population. Rien que tout cela nous permet d'ouvrir les yeux sur l'exclusion sociale subie par les personnes handicapées. De plus, j'aimerais appuyer sur le fait que certaines personnes handicapées se sentent exclues de la société, puisque vous le savez peut-être ou pas, mais de nombreuses institutions sont mises en place pour les personnes handicapées. Cependant, ces personnes ne sont pas autonomes dans leur choix de vie et vivent à l'écart de la société. En 2019, Catalina Davandas Aguiar a d'ailleurs exigé la fermeture de tous les établissements existants. Déjà 100 000 enfants et 200 000 adultes handicapés résident dans ces institutions et Emmanuel Macron veut intensifier ce nombre en dépit des avertissements de l'ONU. Vous vous dites sûrement que ça ne semble pas être un problème puisqu'il y a autant de demandes dans ces établissements. Le problème, c'est que l'État ne propose aucune alternative. En effet, rien n'est mis en place pour assurer l'indépendance de ces personnes handicapées afin qu'elles puissent vivre chez elles, seules ou avec qui elles veulent. Enfin, j'aimerais encore appuyer avec des sondages sur ce sujet puisque les personnes en situation de handicap manifestent davantage de mal-être. En effet, le DRIS a questionné des personnes handicapées âgées de plus de 65 ans en se basant sur la satisfaction sur une échelle de 0 à 10 et il donne une moyenne de 5,9 contre 7,3 pour le reste de la population. Pour appuyer mes propos, 29% disent être nerveux tout le temps ou la plupart du temps contre 19% pour le reste de la population. Et 26 parlent de pessimisme ou de sentiment de découragement contre 11% pour le reste de la population. Enfin, 19% parlent de déprime contre 7% pour le reste de la population. Pour finir, j'aimerais laisser les personnes concernées s'exprimer à travers leurs témoignages. Tout d'abord, voici le témoignage de Jamel Dimeglio, qui travaillait au centre des traitements des déchets et qui, à cause d'une chute, ses mains ont touché le moteur et il a dû se faire amputer 2-3 doigts. « Je n'étais plus capable de démonter les machines. J'étais devenu maladroit », affirme-t-il. Et devinez ce qu'il y a bien pu se passer. Reconnu inapte à son poste de travail et travailleur handicapé, il est lâché par son employeur qui met fin à son contrat. Je cite « Je me sentais exclu et diminué physiquement. Je me suis renfermé sur moi-même. » Un témoignage très poignant qui nous montre la dureté des choses et les restrictions professionnelles qu'on impose aux personnes handicapées. Pour appuyer sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à propos des efforts apportés aux personnes handicapées, qui sont très minimes pour leur permettre de vivre seules et être autonomes, voici le témoignage de Christelle Vénéré. En effet, elle est atteinte d'un handicap de naissance d'infirmité motrice cérébrale et a tout fait pour pouvoir devenir autonome dans son appartement à Paris. Mais ce n'est pas si facile. Je cite, « D'origine guadeloupéenne, je suis née à Paris et j'ai passé mon enfance partagée entre la région parisienne et le sud de la France. » Infirme moteur cérébral, un handicap de naissance, j'ai connu des centres de rééducation, puis vécu dans des foyers entre 20 et 34 ans. Mais dès l'âge de 12 ans, je m'étais fixée pour objectif de vivre seule, de manière autonome. J'ai toujours attaché beaucoup d'importance à l'indépendance, au fait de pouvoir sortir sans dépendre d'une aide extérieure ou d'ouverture et de fermeture d'un foyer. À terme, j'aimerais travailler à temps partiel. Elle a vécu dans des appartements rattachés au foyer et a appris à devenir autonome, où elle a par exemple appris à faire ses courses, gérer son linge, etc. Elle a par la suite tenté de trouver un appartement dans la capitale, mais cela se présente très difficile. J'aimerais aujourd'hui me rapprocher de la région parisienne où vivent mes amis et ma famille, mais il y est très difficile d'obtenir un logement près de la capitale. Pour tout dire, je ne suis pas sûre d'y parvenir un jour. Elle éprouve du mal à remplir les papiers administratifs et aimerait trouver l'aide nécessaire pour y parvenir. Il y en est de même pour les médecins qu'elle a du mal à trouver. Depuis 3 ans, je n'ai pas pu consulter un professionnel car le cabinet de celui qu'on m'a conseillé n'est pas accessible. Un trottoir m'empêche d'entrer avec mon fauteuil. Lorsque je suis malade, je suis contrainte d'appeler SOS médecin ou d'aller aux urgences. Elle appuie aussi sur les problèmes fréquents des voies de circulation et transports en commun pour les personnes en fauteuil roulant dans les villes qui sont inadéquats, voire minimes. Si les transports publics ne sont pas adéquats, pourquoi ne pas nous permettre d'accéder au taxi avec notre abonnement au transport en commun ? Voici les mots des personnes en situation de handicap qui cherchent de l'aide afin de pouvoir être autonomes et s'intégrer correctement à la société sans avoir d'inconvénients, se sentir jugé ou rejeté. Et pour cela, il y a encore beaucoup de travail à faire en espérant un jour atteindre leur satisfaction.
Les papiers de monnaie.
La lutte contre l'exclusion sociale.
Je m'appelle Shana Inerancienne et je vais aujourd'hui vous présenter ma plaidoirie. Commençons par le commencement. L'exclusion sociale, qu'est-ce que c'est ? L'exclusion sociale est un concept qui se base sur la situation dans laquelle une personne ou un groupe est empêché de participer pleinement à la vie sociale, économique et politique de sa communauté. Cela peut être causé par divers facteurs tels que la pauvreté, le manque d'accès à l'éducation, le chômage, la discrimination et la stigmatisation. Il faut également savoir que l'exclusion sociale peut avoir des conséquences graves sur les personnes et les communautés qui en sont victimes. Par exemple, les personnes exclues peuvent être plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale, de toxicomanie et d'isolement social. Il existe de nombreux exemples d'exclusion sociale dans le monde. Les personnes sans-abri sont souvent exclues de la vie sociale et économique de leur communauté. Les personnes handicapées peuvent également être exclues de la vie sociale et économique en raison de l'inaccessibilité des bâtiments et des espaces publics. Les personnes appartenant à des groupes minoritaires peuvent également être victimes de discrimination et d'exclusion sociale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre injustice. En 2017, une jeune adolescente nommée Shaina, âgée de 13 ans, est victime d'un crime sexuel, un viol. À 13 ans, elle devient la prostituée de son quartier, la fille facile de son école. Elle doit changer de collège et ses parents la mènent en cours chaque matin. Suite à cette injustice qui lui est arrivée, elle trouve la force d'aller porter plainte avec sa mère. C'est courageux. En 2019, 2 ans après cette injustice, cette agression, cette transgression, cette indocilité, elle est reconnue par l'un de ses agresseurs et est passée à tabac. Shaina a 15 ans. Elle est au bord de la dépression. Quelques mois après, elle tombe amoureuse d'un garçon, de qui elle tombe enceinte. Ce jeune homme a honte et ne veut pas que cela s'éteigne. Il ne veut en aucun cas être le petit ami de la prostituée du quartier ou encore être le père d'une fille impure. Ces mots viendraient de lui. Ça ne s'arrête pas là. Le 28 octobre de la même année, Shaina reçoit plusieurs coups de couteau dans le ventre et est brûlée vive. Shaina avait 15 ans. À 13 ans, a été victime d'un viol, a été passée à tabac, a reçu plusieurs coups de couteau dans le ventre lorsqu'elle est tombée enceinte et a été brûlée vive. Son cauchemar avait commencé lors d'un crime sexuel. Elle a ensuite été mise à l'écart, laissée de côté, insultée et humiliée dans la rue à plusieurs reprises. Seul son frère et ses parents étaient là pour elle. C'était dur, très dur. Non seulement pour elle, mais aussi pour sa famille. Alors faites justice pour Shaina. Et n'oubliez pas qu'il est important de reconnaître l'existence de l'exclusion sociale et de travailler à la réduire. Merci pour votre attention.
Les papiers de monnaie.
La lutte contre l'exclusion sociale.
C'est une autre.
Tout d'abord, bonjour à tous. Je vais aujourd'hui vous présenter la Croix-Rouge française, une association internationale qui lutte contre l'exclusion sociale et qui prône la coopération, la paix et qui met tout simplement en avant l'homme avec un grand H. Il existe plusieurs Croix-Rouges, dont notamment la nôtre, la Croix-Rouge française, mais également l'allemande ou l'espagnole par exemple. Et le sujet d'aujourd'hui sera donc la Croix-Rouge française. Tout d'abord, la Croix-Rouge n'est pas forcément des associations, c'est avant tout un mouvement. Un mouvement qui a été fondé par Henri Dunant en 1864 à Genève en Suisse. Tout simplement pour l'histoire, après un voyage en actuelle Italie, à l'époque c'était le royaume de Piémont-Sardaigne, Monsieur Dunant a été témoin des dégâts de la guerre, d'une bataille, la bataille de Solferino, en 1864, dans laquelle il a décidé de créer une association d'assistance aux blessés militaires et aussi à leurs familles, ce qui est moins dit dans les œuvres historiques. Donc, par exemple, pour porter de l'aide aux veuves et aux orphelins des soldats qui ont malheureusement péri pendant ces batailles violentes. Ensuite, il faut savoir que la Croix-Rouge a été également très importante pendant la Première Guerre mondiale, avec des unités dites ambulantes, c'est tout simplement l'ancêtre des ambulances de nos jours, mais également durant la Seconde Guerre mondiale, avec cette fois des équipes d'urgence qui seront tout simplement les ancêtres des équipes de secouristes, qui aident toujours aujourd'hui. À cette époque, ils aidaient essentiellement après les bombardements, par exemple, ou les attaques de masse. Il faut savoir que en France, la CRF, donc la Croix-Rouge française, c'est la quatrième plus ancienne société nationale de la Croix-Rouge, avec l'allemande en première, si je ne me trompe pas. Il faut ensuite savoir qu'elle a été très importante pendant la Première Guerre mondiale, avec les unités ambulantes, qui sont une forme d'ambulance moderne, mais également durant la Seconde Guerre mondiale, avec des équipes d'urgence, des ancêtres des équipes secouristes qui aidaient notamment après les bombardements ou les attaques sur les civils. Ce mouvement répond simplement à sept principes fondateurs. Premièrement, l'humanité, la neutralité, l'impartialité, l'indépendance, le volontariat, l'universalité et surtout l'unité. Des principes très humains qui sont donc très bien représentés par cette association. Donc de nos jours, le président n'est plus Henri Dunant, pour des raisons évidentes, mais désormais c'est Philippe d'Acosta, et la Croix-Rouge compte aujourd'hui 59 000 volontaires et 27 000 employés. 27 pays suivent ce mouvement. Et ces pays forment des programmes spécifiques pour un meilleur accès à l'eau dans certains pays en difficulté, tout simplement une lutte contre la précarité alimentaire par exemple, et plus généralement aider les gens dans le besoin. Il faut savoir que la Croix-Rouge est financée à 43% par des dons publics. Il faut donc des gens pour aider cette association. Ensuite, suivant notre importance et notre fidélité sur la Croix-Rouge en tant que bénévole, pouvons avoir des décorations qui nous sont décernées. Des médailles avec des formes classiques, des médailles de bronze, d'argent, d'or, grand or pour les très grands bénévoles. Plus récemment, il y a eu l'insigne Covid pour cette période qui nous a tous touchés, une période très difficile. Il faut savoir que le plus haut, très difficilement décerné, la plus haute récompense, c'est la médaille d'honneur de la Croix-Rouge. En général, la Croix-Rouge, en plus d'aider tous, lutte tout simplement contre l'exclusion sociale, parce qu'elle ne fait pas de distinction avec les gens. Dès qu'une personne est dans le besoin, la Croix-Rouge vient aider sans jugement. C'est une preuve très importante de bienveillance, d'humanité. Par exemple, je vais vous présenter le témoignage de Johan, un grand jeune homme de Bretagne qui, pour ses 18 ans, a vu l'aide sociale à l'enfance le prendre en charge. Il se retrouvera donc à la rue avant d'être aidé par une équipe du SAMU social de la Croix-Rouge française, ce qui a permis de retrouver un quotidien plus stable, un mode de vie plus convenable et tout simplement de repartir sur de bonnes bases. Ensuite, plus précisément, sur la Croix-Rouge française située à Crépy-en-Valois. Elle se situe donc au 9 bis boulevard Victor Hugo, pour les personnes intéressées. Elle est ouverte tous les lundis et mardis de 14h à 16h. Sa présidente est Madame Françoise Carnel. L'accueil et l'orientation sont des fondements clés. Il existe différentes aides fournies par la Croix-Rouge de Crépy, et la plus importante reste l'aide alimentaire qui est sous forme de bons. Tout simplement, l'argent récolté à 43% par les dons, comme j'ai pu le dire précédemment, mais également par la vente de vêtements et d'autres objets de décoration par exemple, permet donc de transmettre tout l'argent qui a été rapporté en bons. C'est-à-dire par exemple, si vous avez une plus-value de 10 euros, ça formera 10 euros de bons. L'association permet donc à des personnes dans le besoin de manger tout en vendant des produits qui les mettent en valeur. Il existe aussi une aide pour la domiciliation, cette fois sur rendez-vous, qui permet de bénéficier de certains droits et aide sociale, parce qu'il faut savoir que durant la crise du logement, il y a certaines aides qui étaient attribuées aux personnes qui avaient un logement attitré. Les personnes qui n'en avaient pas ne pouvaient pas bénéficier de ces aides. On leur a donc fourni les choses nécessaires. Pour revenir sur le bénévolat en général, comme j'ai pu le dire, il y avait bien 60 000 bénévoles à la Croix-Rouge française, mais le bénévolat à la Croix-Rouge est plus précis que dans d'autres associations par exemple. Absolument tout le monde peut être bénévole, même les mineurs. Il existe diverses missions adaptées à vos compétences et à la cause que vous souhaitez soutenir. Par exemple, il est possible de passer dans de nombreuses Croix-Rouges des diplômes de secourisme gratuits qui permettent donc d'aider les voitures de SAMU de la Croix-Rouge par exemple, ou alors tout simplement aider en tant que forme de main-d'œuvre dans certaines situations, pour fournir de la nourriture par exemple. Et tout simplement, être bénévole à la Croix-Rouge, ça peut être très important et très bon pour vous. Ça vous fait vous sentir utile, faire des rencontres, et ça retourne à un esprit assez important chez l'humain, l'esprit d'aider et d'être aidé. Alors, tout simplement, comment devenir bénévole ? Il faut tout simplement se rendre sur le site de la Croix-Rouge, remplir un formulaire en ligne qui est assez court, qui vous présentera toutes les missions correspondant à vos critères, puis tout simplement après aller à la rencontre de l'association Croix-Rouge la plus proche de chez vous, afin de compléter ces démarches.
C'était un papier de Noé.
RVM, à 14h, du lundi au vendredi, découvrez le travail des lycéens-lycéennes de Jean Monnet de Crépy-en-Valois sur l'exclusion sociale. Ils et elles se sont investis toute l'année scolaire avec leur professeur d'enseignement moral et civique, Barbara Maurice.